Oui, ça s'est bien passé, votre étude, dans le silence d'abord, puis dans le partage. Et bien maintenant, nous voulons demander à Dieu qu'il nous conduise dans cet instant. Seigneur, nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous voulons vraiment dépendre de ton esprit, que tu nous donnes la grâce pour parler et aussi la grâce pour accueillir le message de ta parole, afin que nous puissions expérimenter que ta parole est esprit et vie, qu'elle ne nous laisse pas intacte, mais qu'elle nous transforme, et cela dans le temps et pour l'éternité, à la gloire de Jésus et de Jésus seul. Amen. Eh bien, je pense que vous avez ouvert vos Bibles. Nous avons fait hier soir la lecture de cette épître, la lecture cursive de ces quatre chapitres, sans nous arrêter sur le texte. Et maintenant alors, nous allons faire la relecture de ce texte, mais dans vos Bibles habituelles. Je tiens beaucoup à cela, que ce soit la Bible Second, si vous avez l'habitude de celle-là, que ce soit la Bible de Jérusalem ou la TOB, enfin, prenez la Bible dans laquelle vous lisez chaque jour. Vous avez à côté la traduction en français courant, qui peut peut-être vous aider. Le thème de notre retraite, vous l'avez vu, votre ressource pour tous les temps, le Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et vous avez constaté que nous tirons cela de cet épître aux Colossiens que nous allons examiner plus en détail. Une des premières choses que je m'efforce d'enseigner dans toutes nos retraites, c'est que tous comprennent bien le sens des mots que nous lisons et que nous employons. S'il y a un mot que vous ne comprenez pas, notez-le et demandez-en l'explication. Ainsi, quand vous lisez les mots qui annoncent notre thème, je veux espérer que vous avez tous bien compris le sens de ces mots. Il y a ressources. Qu'est-ce que c'est que une ressource ou des ressources? Une ressource, c'est un secours. C'est ce qui peut améliorer une situation. Moi, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez. Mais je voudrais qu'ensemble, nous puissions découvrir des ressources qui vous soient profitables. Que vous puissiez découvrir un secours, un moyen de redressement, une possibilité et qui vous est aujourd'hui donnée. Oui, nous avons besoin de ressources pour vivre. Sans ressources, nous ne pouvons pas vivre. Puis, on a mis les ressources pour tous les temps. Qu'est-ce que c'est que le mot « temps » ? Le mot « temps » désigne la mesure de la durée des phénomènes qui se déroulent dans une existence. Cette durée, elle peut être d'une seconde, mais on a besoin aussi du Seigneur. On a besoin d'un secours dans une seconde. Cette durée peut être d'une minute, d'une heure, d'un jour, d'une semaine, d'un mois, d'une année et même plus. Alors, votre ressource pour tous les temps, votre secours en toutes circonstances, temps heureux, temps difficile, il y a un temps pour tout sous le soleil, dit l'Ecclésiaste. Bien, ce secours pour tous les temps, ce que nous affirmons en nous basant sur cet épître aux Colossiens, c'est que ce secours, c'est le Christ. Ce secours, c'est quelqu'un, mais quelqu'un avec qui vous devez vivre en relation permanente. en relation constante. Quelle est aujourd'hui, 5 octobre, votre relation personnelle avec Jésus-Christ, le Fils bien-aimé du Père? Un Christ qui ne veut pas être à côté de vous, mais qui veut être en vous, que vous pouvez trouver immédiatement, sans aller dans un lieu où le Christ se trouverait. Le Christ veut se trouver où ? En vous. Alors, où que vous soyez, vous pouvez le trouver. Il est en vous. Descendez en vous-même. N'essayez pas de le chercher en dehors. Le Christ n'est pas en dehors, le Christ est en vous. De sorte que le secours, vous l'avez sur place. C'est quelque chose de fantastique. Hein? Vous n'avez pas besoin de courir à un lieu de pèlerinage pour le trouver. Ce secours, vous l'avez en vous-même. Et rien ne peut vous séparer de ce secours. À vous de le trouver. À vous de descendre en vous-même. N'allez pas le chercher en dehors. Vous savez que le fils prodigue lui-même nous donne une grande leçon. Quand est-ce qu'il a retrouvé au fond la vraie voie, la vraie délivrance? C'est quand il est dit qu'il est rentré en lui-même. Or, bien souvent, nous sommes hors de nous-mêmes. Et nous sommes dans le pays étranger. Et nous sommes complètement fous. Pour retrouver la raison, il faut rentrer en soi-même. Alors, il retrouve le Père. Et il retourne à la maison paternelle. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ce Christ en vous, il est dit que c'est l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que c'est que l'espérance? Qu'est-ce que ça veut dire dans l'Écriture? L'espérance, d'une façon générale, c'est l'attente d'un bien que l'on désire. C'est cela la définition de l'espérance. L'espérance, c'est l'attente d'un bien que l'on désire. Puis la gloire, qu'est-ce que c'est pour nous? La gloire, c'est la possession de Dieu dans la béatitude éternelle. Sur cela, tous les théologiens sont d'accord. Qu'est-ce que c'est que la gloire? C'est la possession de Dieu dans la béatitude éternelle. Un jour, nous serons dans la gloire. Et Christ en nous, c'est déjà l'espérance de cette gloire, de cette possession. Alors, quand vous avez cette espérance, vous êtes déjà dans la joie. Dans la joie. Et ce que Dieu désire de chacun de vous, c'est que vous soyez des chrétiens joyeux, des chrétiens heureux, et non pas des accablés, des déprimés, des opprimés, ou des oppressés, des gens heureux dans le Seigneur. Ensuite, on a mis que c'était que nous trouvions ça dans l'épître, ou Colossiens. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une épître? Je pense que vous comprenez bien ce que c'est. Hein? Mais en milieu catholique, ce mot rappelle la leçon généralement tirée des lettres des apôtres qui se lit à la messe immédiatement après quoi? Après l'évangile. Hein? On lit l'épître. Hein? Alors, habituellement, quand on parle d'épître, on pense à ce commentaire qui est fait. Si on en fait, alors bien souvent on ne fait pas même de commentaire, on revient simplement à l'évangile, eh bien on fait un commentaire sur l'épître. Mais chez les anciens, l'épître c'était simplement une lettre. C'est ça une épître. Un message écrit qu'on adressait à une personne ou à une communauté. Voilà ce que c'est qu'une épître. C'est une lettre que quelqu'un écrivait à une personne ou à une communauté. Mais évidemment, on a donné au cours des âges un sens péjoratif à ce mot épître pour parler plutôt d'une lettre ennuyeuse. Quelle épître il m'a envoyée, hein? Ça, c'est le sens péjoratif. Une longue épître. On dit ironiquement, n'est-ce pas, que quelqu'un nous a envoyé une épître. C'est-à-dire une longue lettre. Mais j'espère que vous ne trouverez pas que l'épître de Paul aux Colossiens est ennuyeux. Alors, nous reprenons maintenant, verset après verset, cette lettre. Qui donc est l'auteur de cette lettre? C'est l'apôtre Paul. Paul. Je pense que vous connaissez qui est Paul. Paul s'appelait autrefois Saul de Tarse. C'était un juif qui persécutait les premiers chrétiens. Il était religieux, absolument sincère dans sa religion, et il pensait défendre la vérité de Dieu en persécutant cette secte qui suivait Jésus de Nazareth ou qui se réclamait de ce Jésus de Nazareth, que ses disciples proclamaient partout être le Messie, et ils avaient même la prétention de dire que ce Jésus qui avait été crucifié, tout le monde le savait, il avait été crucifié, qu'est-ce que ces apôtres disaient? Qu'il était ressuscité. Donc, ce Saul de Tarse croyait que les disciples du Christ étaient simplement des imposteurs, qu'ils avaient inventé la chose, et lui, qui était en relation avec les souverains sacrificateurs, avait entendu que les gardiens du tombeau prétendaient que le corps de Jésus avait été ravi pendant la nuit. Et vous savez que les souverains sacrificateurs de ce temps-là avaient payé les gardiens du tombeau pour dire ce mensonge. Alors, Saul de Tarse avait cru ces mensonges et était persuadé d'être dans la vérité et que cette nouvelle religion risquait de nuire au judaïsme. Alors il s'était fait le champion de la persécution des premiers disciples de Jésus. Et il avait vu même mourir Étienne, qui fut le premier martyr. Et il est dit dans le chapitre 7 des Actes qu'il gardait les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Et nous pensons que cette lapidation d'Étienne avait quand même produit un certain effet sur Saul de Tarse. Parce que, en regardant cet homme, parce que vous savez, quand on voit quelqu'un mourir, hein, ça nous frappe. Cet homme, quand il parlait aux Juifs, il est dit que ceux qui le regardaient voyaient son visage resplendir comme quoi? Comme celui d'un ange. Quelqu'un qui meurt, ou qui va mourir, ou qui sait qu'il va mourir, et qui a un visage resplendissant comme celui d'un ange, il n'est pas marqué par l'agonie de la mort, par le rictus de la mort. C'était quelque chose de surhumain. Et ça, il ne pouvait pas nier. Il avait vu quelqu'un mourir sous les pierres et qui rayonnait comme un ange. Puis non seulement il l'avait vu avec ce rayonnement-là, mais il l'avait entendu parler en disant au moment de mourir, « Je vois le ciel ouvert. » Et il avait prétendu qu'il voyait Jésus. Qu'il voyait Jésus. Or, est-ce que c'était un illuminé? Est-ce qu'on lui avait fait une piqûre de morphine? Non. Hein? Il était bien lui-même, sans aucune drogue, puis il disait qu'il voyait Jésus, debout. Et non seulement il racontait ce qu'il voyait, c'est Étienne, mais ses dernières paroles, et vous savez, les paroles d'un mourant, ça a une importance. Qu'est-ce qu'il disait? Au sujet de ceux qui l'entouraient et qui le lapidaient, donc ses ennemis, il ne les maudissait pas, il disait à Dieu, pardonne-leur. Ne leur impute point ce crime, ce péché. Bien, vous savez, quand vous assistez à une pareille mort, ça vous impressionne quand même. Mais Saul de Tarse était un homme dur, il avait des entrailles de fer, et il n'a pas voulu se laisser émouvoir, de telle manière qu'il est dit qu'il respirait encore la menace et le meurtre, et qu'il allait dans les maisons chercher ses premiers chrétiens, et il les emmenait en prison. Il les faisait battre de verges, Et non content de travailler ainsi à Jérusalem, il avait en vue d'autres villes et dans d'autres territoires, la ville de Damas. Et c'est ainsi que, muni des lettres du souverain sacrificateur, il était allé à Damas, enfin, il allait sur le chemin de Damas, quand tout à coup, à midi, il a été soudainement enveloppé d'une lumière éblouissante, plus éblouissante que le soleil, il est tombé à terre, et là, aveuglé, il a entendu cette voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Et qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors, vous rendez-vous compte de ce qui a dû se passer dans ce Saul de Tarse ? Un homme absolument droit, un homme sincère, et qui apprend tout à coup que sincérité n'est pas synonyme de vérité. On peut être sincère dans sa religion, on peut persécuter les autres, et puis pourtant, être loin de la vérité. Qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus qui te persécute. Alors, que dois-je faire ? Il demande ce qu'il doit faire. Et le Seigneur lui parle et lui dit qu'il doit aller à Damas et que là, il lui serait montré ce qu'il devait faire. Enfin, vous connaissez tout cela, nous ne pouvons pas nous arrêter longuement, hein, mais c'est simplement pour que vous sachiez qui écrit cette lettre. Un ancien persécuteur des chrétiens. Mais qui dit, dans une lettre qu'il écrit à Timothée, « J'étais un blasphémateur, un persécuteur et un outrageux. Mais miséricorde m'a été faite. » Et c'est lui qui est devenu le grand apôtre des païens. Alors, vous voyez, vous pouvez bien comprendre maintenant, Paul, apôtre, qu'est-ce que c'est qu'un apôtre ? C'est un envoyé. Est-ce que Paul a décidé à un moment donné d'être apôtre ? Non. Vous voyez bien ce qu'il était avant. De sorte que c'est pas lui qui a pris cette décision de devenir l'apôtre de Jésus-Christ. Au contraire, il était le persécuteur du nom de Jésus-Christ. Et puis maintenant, il se présente comme étant apôtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire envoyé par Jésus-Christ. Il n'a pas décidé de travailler pour Jésus-Christ, comme on l'entend si souvent parmi les jeunes d'aujourd'hui. J'ai décidé de mettre ma vie au service de Jésus-Christ. Quelle valeur est-ce que ça a, ta décision ? Est-ce que lui t'a choisi pour parler en son nom ? Ou bien est-ce que tu seras encore un de plus pour démolir le témoignage de Jésus tout en prétendant le servir. Et c'est ça qui est très grave. Parce qu'il y a un tas de gens maintenant qui trouvent que c'est pas un mauvais job, comme vous dites au Québec, hein, de se mettre au service de Jésus-Christ. C'est pas un job, mes amis. C'est pas cela. Croyez-le. Il nous faut être sérieux. Paul nous dit qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ, vous savez qui il est, je veux y croire, mais il est apôtre, Paul, par quelle volonté ? Par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a fait de lui un apôtre. Comme du reste, les autres apôtres que vous trouvez dans l'Évangile, Jésus leur dit à la fin de son ministère, dans le chapitre 15 de Jean, verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et qui vous ai établi. » Ce n'est pas une organisation qui nomme un apôtre, qui nomme un serviteur de Dieu. Ce n'est pas une institution, c'est Dieu lui-même. Vous devez avoir affaire personnellement avec Dieu. Et si vous n'êtes pas appelé, ça sera un fiasco. Croyez-le bien. Il faut être appelé. On ne se fait pas apôtre. On ne s'envoie pas soi-même et ce n'est pas une communauté qui nous envoie. C'est qui ? Dieu lui-même. Bien entendu, avec la communion de la communauté. Mais si ce n'est pas un appel personnel de Dieu, nous insistons sur ce fait, c'est un fiasco. Ce sera lamentable. Vous tirerez toujours le diable par la queue, matériellement peut-être, tout en prétendant servir le Dieu aux richesses infinies. Quand Dieu vous appelle, il vous donnera ce qu'il ordonne. Mais il vous faut une relation personnelle avec lui. Paul, apôtre de Jésus-Christ, c'est par la volonté de Dieu. Et à côté de lui, il met le frère Timothée. Je trouve ça admirable. Le grand apôtre, qui se trouve, comme nous le verrons maintenant, en prison à Rome, met à côté de lui celui qu'il appelle le frère Timothée. Qui est ce frère Timothée? C'est un jeune homme et qui venait de Lystre, dont le père était grec et dont la mère était juive, et qui s'était converti à Dieu lors d'un passage de Paul dans la ville de Lystre. Vous avez ça au chapitre 16 des Actes. Et dans l'épître à Timothée, Paul appelle ce Timothée son véritable enfant dans la foi. Et si vous lisez dans les autres épîtres, vous verrez comment le grand apôtre aime à parler de Timothée. Il l'appelle là dans Timothée son véritable enfant dans la foi, mais ailleurs, ici il l'appelle le frère Timothée, et puis il l'associe donc comme auteur de cette lettre. C'est peut-être Timothée qui a écrit la lettre dictée par Paul, mais il se l'associe. Ailleurs, il l'appelle son compagnon celui qui travaille avec lui, car Timothée était devenu le compagnon de son père spirituel, l'apôtre Paul. Voilà quelque chose qui est tellement merveilleux de voir un père spirituel et qui met son enfant dans la foi à ses côtés, au même niveau en quelque sorte que lui. Il se l'associe dans cette lettre. Donc, ils sont deux et qui parlent. À qui adresse-t-il cette lettre? Il dit aux saints et fidèles. C'est des morts, les saints? C'est des vivants, n'est-ce pas? Il ne faut pas penser que les saints sont seulement dans le ciel. Les saints, ce sont des gens vivants. Mais, dans le vrai sens de ce mot, ce sont ceux qui ont été mis à part. C'est ça, la sainteté. Ce sont des personnes qui ont été mises à part, qui ont été séparées du monde. Ils sont encore dans le monde, mais ils ne vivent plus comme le monde. Dieu est un Dieu saint, et ceux qui sont en relation avec Dieu sont des saints, n'est-ce pas? Par leur relation avec Dieu. Et maintenant, il est dit aussi qu'ils sont fidèles. Parce que vous savez, sur chaque mot, on pourrait faire une heure de réunion. Si vous prenez chaque mot, et vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas nourri quand vous vous arrêtez sur chaque parole. Qu'est-ce que c'est qu'un fidèle? On vous dira, un fidèle, c'est un homme qui va à l'église. Non, n'est-ce pas? Un fidèle, c'est un homme en qui le Saint-Esprit a mis sa fidélité. La fidélité, c'est un fruit de l'esprit. C'est un fruit de l'esprit. Alors, un homme qui est fidèle, c'est un homme qui reste attaché à une personne. C'est la personne du Christ. Donc, voilà les gens, les personnes qui reçoivent cette lettre. Les saints et les fidèles. Frères en Christ. Frères en Christ. Comment est-ce qu'on devient frère? Qu'est-ce qu'il faut pour qu'on soit frère? Avoir un même père, hein? Pas faire partie du même groupe. Ou de la même église. Vous pouvez faire partie de la même église et ne pas connaître cette relation fraternelle. Pour être frère, il faut avoir un même père. Et comment est-ce qu'on a ce père, selon les Écritures? À tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu le Christ, Jésus, chapitre 1 de l'évangile de Jean, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, on n'est pas enfant de Dieu simplement parce que on est né dans une famille chrétienne, mais on le devient quand on reçoit le Christ. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la volonté de la chair ou du sang, mais de la volonté de Dieu. Vous voyez que Paul est apôtre par la volonté de Dieu. On devient enfant par la volonté de Dieu. Mais, de notre côté, qu'est-ce qu'il nous faut faire pour devenir enfant de Dieu? Il faut recevoir le Christ. Et recevoir le Christ, c'est pas l'avoir à côté de soi, ou le prendre comme compagnon, ou comme modèle extérieur, mais le recevoir en nous, le recevoir en soi. C'est clair, hein? Et cela, c'est par la volonté de Dieu. Alors, c'est ainsi, on devient des frères en Christ, parce qu'on a le même Père. Et c'est ça notre lien. Alors, ces frères en Christ, ils se trouvaient dans la ville de Colosse. La ville de Colosse, c'était une ville de Phrygie, et la Phrygie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie mineure. Alors, on se demande, mais ces saints qui sont à Colosse, ces saints et fidèles, comment ont-ils eu connaissance de l'Évangile? Parce que, comme nous allons le voir plus loin, ce n'est pas Paul qui a annoncé l'Évangile dans la ville de Colosse. Alors, on se demande toujours, mais où ont-ils entendu peut-être la première fois l'Évangile, ces saints et fidèles qui sont à Colosse? Si vous lisez dans le chapitre 2 des Actes, vous trouvez quelque chose qui est remarquable. Dans cette foule de Juifs qui était montée de 15 pays différents à Jérusalem le jour de la Pentecôte, pour le jour de la Pentecôte, et qui ont au fond entendu les apôtres, qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit ce jour-là, il y avait des gens de Phrygie. Alors on peut penser que les premiers croyants ont pu déjà être convertis par la prédication de l'apôtre Pierre. Mais alors, c'était alors un petit noyau de juifs. Vous avez ça au verset 9, n'est-ce pas? Verset 8 et 9 du chapitre 2 des Actes. Comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle, Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, n'est-ce pas? Alors, Colosse était une ville de Phrygie, donc d'Asie mineure. Mais enfin, si quelques âmes avaient entendu l'Évangile et s'étaient retrouvées à Colosse, et donc un témoignage de croyants en Christ avait été formé à Colosse. Et d'autres Grecs, alors, avaient été convertis. Mais nous verrons qui a été le grand instrument de la fondation de cette église de Colosse. Qu'est-ce qu'il leur souhaite d'abord, l'apôtre Paul? La grâce et la paix. Que la grâce et la paix vous soient données. De la part de qui? De Dieu, notre Père. Je pense que vous savez ce que c'est que la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce. Mais quand on est sauvé par la grâce, on n'a pas besoin de la grâce alors. Pourquoi est-ce qu'on en a encore besoin? Pour marcher. De sa plénitude, nous recevons grâce sur grâce. Vous aviez une grâce hier, vous avez besoin d'une grâce nouvelle aujourd'hui. Nous avons toujours besoin de ce renouvellement de la grâce. Est-ce que vous avez reçu sa grâce aujourd'hui? Commencez la journée avec la grâce. Et puis la paix. Nous sommes dans un monde où ne règne pas la paix. De sorte que la paix, nous avons toujours besoin qu'elle nous soit renouvelée. Parce que tout est fait pour nous inquiéter. Donc, l'apôtre Paul résume au fond les besoins des cœurs dans ces deux mots. Et on a pu dire que la grâce et la paix, c'est le sommaire de toutes les bénédictions de la foi. C'est ce que vous aurez, dont vous aurez toujours besoin, de la grâce et de la paix. Parce que la grâce, elle vous a apporté le salut. C'est vrai, vous êtes sauvés par la grâce. Mais maintenant que vous êtes sauvé, vous avez besoin d'être enseigné. Eh bien, c'est la grâce qui va vous enseigner. La grâce qui apporte le salut, dit Paul à Tite, nous enseigne comment nous devons vivre dans le siècle présent. Parce que c'est pas drôle, hein, de vivre dans le présent siècle. Comment est-ce que nous devons vivre? L'enseignement de la grâce nous dit que on doit vivre sobrement quant à nous-mêmes. Alors là, vous avez tout, hein, la sobriété en toute chose. Quant aux autres, dans nos relations avec les autres, on doit vivre dans la justice, c'est-à-dire justement. J'ai à me proposer toujours ce qui est juste dans mes relations avec mon prochain. Et puis, quant à Dieu, comment est-ce que je dois vivre? Pieusement. Sobrement, justement, pieusement. Ça, c'est les trois relations. Sobrement quant à moi-même, c'est-à-dire dans la tempérance, en toute chose, dans la maîtrise de soi. Justement, dans la justice quant aux autres. Et puis, quant à Dieu, dans la piété. C'est-à-dire, la piété, c'est une relation personnelle avec Dieu. Je ne vis pas de la vie de mon église ou de ma communauté. Je vis d'une vie personnelle avec Dieu. Et plus vous aurez une vie personnelle avec Dieu, plus vous apporterez à votre communauté et à vos frères et sœurs les richesses du Christ. Vous serez un don pour vos frères et vos sœurs. Que vous soyez une sœur ou que vous soyez un frère. Nous apportons les grâces que Dieu nous a données. Nous ne les gardons pas pour nous-mêmes, mais nous les apportons aux autres. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc la grâce nous sauve, la grâce nous enseigne, mais la grâce aussi nous fortifie. Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. La source abondante de force, on la trouve dans la grâce qui nous a sauvés. Et puis, ce qu'on apprend aussi, c'est que nous devons croître dans la grâce. Nous devons grandir dans cette grâce. Et je dirais aussi que Paul a dû l'apprendre. Dans toutes nos circonstances les plus difficiles, le Seigneur veut nous dire, ma grâce te suffit. Ce qui compte, n'est-ce pas, c'est sa grâce. Ma grâce te suffit. La grâce de Dieu doit être pleinement suffisante. Il n'y a pas une circonstance où vous ne puissiez connaître la grâce de Dieu. Et cette grâce de Dieu doit vous être pleinement suffisante. Quels gens devrions-nous être, si nous y pensons? Alors, c'est cela que Paul a souhaité aux Colossiens. Des gens qu'il ne connaissait pas même, mais dont il avait entendu parler. Et il demande que cette grâce et cette paix leur soient données de la part de qui? De Dieu notre Père. N'est-ce pas? Il demande cela pour eux, mais il demande cela à Dieu notre Père. Est-ce que vous connaissez Dieu notre Père? Ou bien est-ce que vous êtes simplement déshabitué au Pater? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Est-ce que c'est seulement ça, votre Père? Ou bien est-ce que quand vous dites Père, c'est comme si vous disiez, papa, parce que vous l'aimez. Abba, père, c'est vrai. Il est mon père. Et ce père, il est éternel. Il est le seul qui ne peut pas mourir. Vous ne serez jamais des orphelins. Vous ne pouvez pas être orphelin si vous êtes dans la relation avec ce père. C'est merveilleux. Hein? Votre père, il est éternel. Et puis c'est un père céleste. On ne peut pas lui faire du mal. Et c'est un Père qui ne change pas. C'est le Père des Lumières. C'est le Dieu de toutes les consolations. De toutes les consolations. Vous avez besoin d'une consolation aujourd'hui? Allez à votre Père, il l'a. Il est le Père des Lumières, le Père des Miséricordes. Vous êtes misérable aujourd'hui. Mais voilà, vous avez le Père des Miséricordes. À votre misère va correspondre sa miséricorde. Donc, où que vous vous retourniez, vous trouvez le Père d'amour, le Père des Lumières, le Père de grâce. Et il est dit qu'en lui, il n'y a ni ombre de variation, ni changement. Nous, souvent, on se lève du pied gauche le matin, ça ne va pas. Mais lui, il est toujours le même. Et il attend que vous alliez à lui. Notre Père, oh que vous puissiez garder simplement cette parole, notre Père. Il est mon Père. Comme Jésus qui dit Père, Père. Parce que vous devez devenir comme Jésus. Nous devons devenir comme Jésus, puisqu'il est en nous. Alors, voyons plus loin, verset 3. Parce que je suis obligé de passer, hein. Mais vous, vous méditerez ce chapitre. Vous reprendrez chacune de ces expressions. Et vous ne direz plus après que votre pasteur ou votre prêtre ne vous donne pas de nourriture. Vous vous nourrirez vous-même. Vous vous nourrirez vous-même. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. C'est pas n'importe quel Dieu, hein. Le Dieu auquel on rend grâce, c'est qui? Aujourd'hui, les gens à qui rendent-ils grâce? C'est bien souvent à quelqu'un de tout autre que Dieu, à des idoles. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez savoir ce qu'est Dieu, eh bien, regardez Jésus-Christ. Reprenez Jésus-Christ dans les évangiles et voyez comment lui parlait du Père. Je n'arrive à connaître mon Père des cieux qu'en voyant ce que ce Père a été pour Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Relisez tout l'évangile en soulignant cette vérité. Il est le Père de Jésus-Christ. Et comment Jésus-Christ parlait-il de son Père? Est-ce qu'il était fâché contre son Père? Ah non. Tout venait de lui. Tout venait de son Père. Quand il avait un moment de joie, à qui s'adressait-il? Père. Je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux petits enfants. Il se réjouissait de voir des âmes saintes qui entraient dans la connaissance de l'Évangile. Je te loue, ô Père. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous révèle le Père. Alors, l'apôtre Paul, il rendait grâce à Dieu et il ne cessait de prier pour ces gens-là de Colosse. Nous ne cessons de prier pour vous. Il associe Timothée. Est-ce que nous ressemblons un peu à ces chrétiens du commencement de l'Église? Est-ce que nous prions pour des gens que nous ne connaissons pas, mais dont on a entendu parler? On a entendu parler de leur foi? Alors, on n'a pas besoin de prier pour eux, puisqu'ils ont la foi. Mais oui, justement, si vous entendez que quelqu'un a la foi, vous devez prier, parce qu'il est peut-être plus en danger qu'un autre. C'est ce que nous devons bien comprendre. Quand quelqu'un, quand on reçoit de quelqu'un de bonnes nouvelles, c'est encore justement le moment de prier. Alors, d'abord de rendre grâce pour ce qu'ils sont, pour ce que Dieu a fait en eux, mais aussi de prier pour qu'ils soient gardés dans cette grâce. Parce que le diable est l'ennemi de ceux qui sont spirituels. Et quand on entend parler de quelqu'un qui est spirituel, ben, il ne faut pas simplement l'envier, mais il faut prier pour lui. Parce que vous pouvez aussi être spirituel. Alors n'enviez pas les autres, mais priez. Nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informé de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Alors on se dit, mais enfin, c'est en tout cas pas pour eux que je devrais prier. Eux vont bien. Prions pour d'autres. Non, priez pour ceux qui, desquels vous avez de bonnes nouvelles. Vous dites, mais moi j'ai pas le temps. Vous croyez que Paul avait plus de temps que nous? Enfin, vous me direz, il était en prison. Oui. Mais, pour Paul, quand il dit prier sans cesse, vous vous rendez compte que, vous pensez que Paul marmottait constamment des prières? Qu'est-ce que c'est prier sans cesse? C'était toujours à genoux? Nuit et jour? Prier sans cesse, c'est avoir une vie ouverte à Dieu. C'est marcher sous un ciel ouvert. Et alors, quand vous avez un besoin, vous criez au Seigneur. Quand vous êtes dans la joie, vous avez une action de grâce. C'est votre atmosphère, la prière. Vous n'avez pas simplement des moments de prière. Vous pouvez avoir des moments de prière, c'est vrai. Mais au fond, c'est votre vie qui est une prière. Prière de joie, prière d'action, de grâce. C'est cela, prier sans cesse. Il y a des gens qui nous disent, on a tellement peu de temps pour prier. Ça vient de votre pensée. Que votre pensée se transforme sans cesse en prière. Alors vous en aurez fini de vous culpabiliser. Je n'ai pas assez de temps pour la prière. On nous dit toujours ça. Puis on veut vous apprendre comment prier, je ne sais trop quoi. La prière, c'est votre pensée. Si votre pensée est amenée captive à l'obéissance du Christ, eh bien, vous saurez ce que c'est qu'une vie de prière. Jésus, il allait de lieu en lieu, il était actif. Certes, il avait des moments de prière dans la nuit, on le sait, il était dans la prière. Mais dans le jour, eh bien, vous ne le voyez pas à genoux dans un endroit, sinon une certaine nuit à Gethsémané, où on a pu le voir dans la prière. Mais sa vie était une vie de prière, tout en étant actif. De sorte que c'est cela que nous devons bien saisir. Prier sans cesse. Et ce qui frappe, c'est que, du reste, dans toutes les épîtres de Paul, il parle toujours de ces trois vertus, la foi, l'espérance et la charité. Eh bien, ces premiers croyants de Colosse, c'est cela qui les caractérisait, leur foi, leur amour et leur espérance. Donc, ces trois vertus théologales, les trois vertus chrétiennes que vous trouvez dans le chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens. La foi, l'espérance et l'amour. Ces trois choses qui demeurent. Mais la plus grande, c'est l'amour. Parce que la foi, un jour, cessera et sera remplacée par la vue. Et puis, l'espérance aussi cessera parce que nous aurons la réalité. Nous aurons la réalité. Mais ce qui demeurera, c'est l'amour, la charité, la charité. Alors, il a entendu parler de leur foi, de leur charité, pour tous les saints. Pour tous les saints. Ils ne font pas exception de personne. Tous ceux qui appartiennent au Seigneur, pour eux, sont des saints. Et il dit, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux. Est-ce que vous savez que vous avez une espérance dans les cieux? Une espérance vous est réservée dans les cieux. Et qu'est-ce que c'est que cette espérance? L'apôtre Pierre nous en parle dans le premier chapitre de son épître, au verset 4. C'est un héritage. Vous me direz, mais moi l'héritage, je l'attends sur la terre. Mais non, il vous est réservé dans les cieux. Alors, vous n'avez pas besoin de vous soucier des banques qui font faillite. C'est de l'actualité. Vous avez un héritage réservé dans les cieux. Mais il faudrait peut-être un petit peu s'occuper davantage des choses du ciel pour savoir ce que c'est que cet héritage. Ça vous intéresse d'avoir un héritage dans les cieux? Mais Jésus disait, quand je vous ai parlé des choses terrestres, si vous ne comprenez pas quand je vous parle des choses terrestres, comment comprendrez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Mais est-ce que vous voulez un peu vous occuper des choses célestes? Et là, ce n'est pas en regardant la télévision qu'on voit les choses célestes. On voit ce qui se passe dans le monde. Et ce n'est pas céleste. Et ce ne sont pas des choses saintes. Eh bien, que le Seigneur puisse vous donner le goût de connaître les choses qui sont dans les cieux, qui nous sont révélées. Et qu'est-ce qui nous a révélé que nous avons une espérance dans les cieux? C'est quoi? C'est la parole de la vérité. Ce n'est pas n'importe qui nous a révélé cela. Mais c'est la parole de la vérité qui vous révèle que vous avez une espérance dans les cieux. Et qu'est-ce que c'est cette parole de la vérité sur laquelle vous pouvez vous appuyer? C'est l'Évangile. La parole de l'Évangile. C'est la parole de l'Évangile. Donc l'Évangile est une parole de vérité. C'est la parole de Dieu. La parole de vérité qui est la parole de l'Évangile, la parole de Dieu. Et c'est l'Évangile qui nous a précédemment fait connaître cette parole. Paul reconnaît que les Colossiens ont entendu la vérité par quel moyen? Par l'Évangile. Pas n'importe quel Évangile, mais l'Évangile de Jésus-Christ, la bonne nouvelle. Et cet Évangile, verset 6, il dit, il est au milieu de vous et dans le monde entier. Dans le monde entier, autant qu'on le connaissait alors. Parce que Jésus avait dit, avant de s'en aller auprès de son Père, allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Alors, la vision de Paul, c'est que l'Évangile soit annoncé dans le monde entier. Dans le monde entier. Et autant qu'il le pouvait, eh bien, cet évangile par les apôtres était annoncé dans le monde entier. Non pas seulement à Jérusalem, en Judée, en Samarie, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et cet évangile, il portait quoi? Il portait des fruits. Et il allait à ce moment-là en grandissant. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Hélas. Trois fois hélas. Il ne semble pas que l'Évangile porte vraiment tous les fruits qu'il devrait porter. Et il ne semble pas qu'il va en grandissant malgré tous les efforts d'évangélisation que l'on peut faire. Et ça, c'est bien humiliant. Il ne faut pas simplement se consoler en disant « Mais nous allons faire un nouvel effort d'évangélisation. » On parle tout le temps d'effort d'évangélisation. Puis après, on se fatigue. Nous devons devenir, là où nous sommes, nous-mêmes, les témoins de l'Évangile. Et c'est comme ça que l'Évangile peut croître. Parce que ce qui va en grandissant, c'est l'islamisme, c'est le bouddhisme, c'est tout ce que vous voulez. Même dans nos pays dits chrétiens. On disait hier encore que le Québec était le pays du monde où il y a le plus de suicides. On ne peut pas dire que l'Évangile va en grandissant au Québec. Ou je sais, vous me direz, mais alors vous n'avez aucun contact avec les milieux évangéliques qui proclament partout qu'il y a le plus grand réveil possible au Québec. Oui, Dieu, dans son amour, dans sa grâce, manifeste des fruits par l'évangélisation. Mais avant de parler de grand réveil au Québec, eh bien nous devrions davantage prier pour que nous soyons sanctifiés et que nous ne donnions pas gloire aux hommes ou à des serviteurs, mais que nous donnions toute gloire et tout honneur à Dieu. Et cet évangile, l'apôtre dit qu'il l'avait reçu d'après les instructions que leur avait donné qui? Épaphras. De sorte que là, vous trouvez, au fond, l'homme qui a été employé par Dieu pour édifier l'église qui se trouvait à Colosse. Il s'appelait Épaphras. C'est un nom qui veut dire couvert d'écume. On peut avoir un nom qui n'est pas très, très magnifique, hein. Mais même si nous étions couverts d'écume et d'infamie, quand l'œuvre de Dieu se fait en nous, il peut faire de nous des instruments de Dieu. Saul de Tarse, le persécuteur, le blasphémateur, l'outrageux, est devenu l'apôtre, le messager, l'envoyé de qui? De Jésus-Christ. Celui qui sera persécuté pour le nom du Seigneur après avoir persécuté les autres. Voilà les changements que Dieu fait dans une vie. Alors Épaphras, dont le nom veut dire couvert d'écume, est devenu l'homme que Dieu a employé pour édifier les croyants de Colosse qui sont appelés des saints et des fidèles. Et Epaphras, Paul dit que c'est notre bien-aimé compagnon de service. Vous voyez les relations qu'il y avait entre serviteurs de Dieu. Ils ne se décriaient pas les uns les autres. Ils ne disaient pas, mais vous savez, moi, c'est pas moi qui vous ai évangélisé, donc peut-être que vous n'êtes pas bien au point. Non, il dit, Epaphras vous a bien instruit. Est-ce que c'est cela que vous pouvez dire de quelqu'un? Il m'a bien instruit. Est-ce que vous avez un témoignage favorable? Epaphras vous a bien instruit. C'est notre bien-aimé compagnon de service. Quand on est au service du Seigneur, on a des compagnons et on les apprécie, on les aime. Et il rend ce témoignage qu'il est pour vous un fidèle ministre du Christ. Donc, Paul fait comprendre aux Colossiens que ce qu'Epaphras leur a dit est la vérité. Il a une confiance absolue dans le travail qu'a fait Epaphras et il confirme tout ce qu'Epaphras leur a enseigné. Et il dit que c'est de lui qu'il a appris de quelle charité l'esprit les anime. C'est donc d'Epaphras qui est venu visiter Paul à Rome, où il est prisonnier, et que l'apôtre a su quel était l'amour qui les animait. Mais cet amour, Paul dit tout de suite d'où il venait. De qui? De l'Esprit. C'est l'Esprit qui animait les Colossiens. Et quand l'Esprit a été versé dans un cœur, est entré dans un cœur, qu'est-ce qu'il y produit? L'amour. C'est pas votre chair qui aime. Vous pouvez pas aimer. L'autre jour, j'étais à Heurs et une sœur me disait, vous savez, cette sœur-là, je ne l'aime pas. Et je ne peux pas l'aimer. Je dis, mais je comprends rien. Par vous-même, par votre chair, vous ne pouvez pas l'aimer. Mais si vous laissez l'esprit vous remplir, eh bien, l'esprit mettra en vous cet amour. L'esprit mettra en vous cet amour. Alors, confessez que vous ne pouvez pas aimer telle personne. Confessez-le au Seigneur. Parce que ne pas aimer, c'est un péché. Celui qui n'aime pas n'est pas de Dieu. Alors, je veux être de Dieu. Alors, il y a quelqu'un là que je n'aime pas. Eh bien, Seigneur, je te confesse. Donne-moi de pouvoir l'aimer. Alors, ça ne sera plus un effort. Mais le Saint-Esprit n'étant pas contristé en vous, vous donnera de pouvoir l'aimer. Et ce sera une grande victoire pour vous. Vous direz, ben c'est pas moi qui l'aime, hein, mais c'est lui. Et vous donnerez gloire au Seigneur. Et vous serez heureux. Et vous ne serez plus culpabilisé. Parce que c'est la maladie du siècle. On est culpabilisé. Voyons plus loin. Verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, donc de toutes ces nouvelles, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Donc, il a de bonnes nouvelles de ces Colossiens, et c'est justement pour eux qu'il ne cesse pas de prier. C'est la deuxième fois qu'il dit cela. Il prie Dieu pour vous, et qu'est-ce qu'il demande? Il semble qu'ils sont déjà remplis de grâce, hein? Bien, il demande qu'il soit rempli de quoi? Je ne sais pas qu'on en aurait besoin de ça. Connaître la volonté de Dieu. Il faut en être rempli. De quoi sommes-nous remplis? Nous devrions être des spécialistes de la connaissance de sa volonté. Nous devrions savoir ce que Dieu veut pour nous, dans notre vie. D'abord pour nous-mêmes, parce que on voit tout de suite ce que Dieu veut pour les autres. Mais attention, est-ce que nous ne pourrions pas demander à Dieu qu'il montre aux autres quelle est sa volonté, plutôt que nous de leur dire, voilà ce que Dieu veut pour toi. Parce que nous pouvons nous tromper, puis nous nous mettons toujours en avant. Mais demandons à Dieu, justement, comme Paul le fait, que réellement il remplisse des vies de la connaissance de sa volonté. Mais comment? En toute sagesse et intelligence spirituelle, parce que hélas, Il y a un tas de choses qui semblent être faites selon la volonté de Dieu, et il n'y a ni intelligence, ni sagesse spirituelle dans ce qui se fait. Personnellement, moi je suis effrayé de voir le manque de sagesse, le manque de discernement spirituel qui peut exister, même chez les conducteurs spirituels. On fait une foule de choses qui n'ont pas de bon sens, qui ne correspondent pas à une vie en relation avec Dieu. Jésus, lui, il disait qu'il ne faisait rien qu'il n'avait vu faire par le Père. Tu fais cette chose-là? Est-ce que le Père l'a fait? Il ne disait rien qu'il n'avait entendu dire par le Père. Ce que tu dis là, est-ce que le Père le dirait? Est-ce que tu l'as entendu, le Père? Mais on n'entend plus le Père. Qu'est-ce qu'on entend? Le monde. On ne voit plus le Père, on voit le monde. Tiens, ça réussit dans le monde, je m'en vais faire ça dans mon église. Et on amène le monde dans l'église. Et c'est pourquoi il n'y a plus de vraie bénédiction. Il y a peut-être beaucoup de bruit, on amène beaucoup de bruit dans l'église. Mais on n'y entend plus le son qui vient du ciel, comme le jour de la Pentecôte. Il y a trop de bruit. Et c'est le bruit de l'enfer, parce que le bruit du monde, jusque dans la musique, musique religieuse, puis on appelle ça évangélique. Quelle folie! Quelle folie, mes frères! Et ce... Mais je sais que je ne plairai pas à tout le monde. C'est aucune importance. Ce qui compte, c'est que je plaise à mon Seigneur. Et c'est que nous avertissions les âmes. Il nous faut de la sagesse. Et qu'est-ce que c'est que la sagesse? C'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu? N'est-ce pas? C'est ça qu'il nous faut. Mais la crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu, mais c'est voir Dieu dans sa sainteté, ce qu'il est. Et alors, on est saisi. Et puis, l'intelligence, qu'est-ce que c'est? J'aime beaucoup ce verset de Job, chapitre 28. Se retirer du mal, c'est cela, l'intelligence. La vraie intelligence, c'est se retirer du mal. En vue de quoi? Si on a cette connaissance de la volonté de Dieu, et cette sagesse, et cette intelligence spirituelle, c'est pour marcher d'une manière digne du Seigneur. Vous pouvez faire l'objet de votre étude, là, sur la marche, marcher d'une manière digne du Seigneur. Ailleurs, il est parlé de marcher d'une manière digne de Dieu, d'une manière digne de l'Évangile. Vous pourriez prendre tous les versets où il est parlé de marcher. Celui qui dit demeurer en lui, en Jésus, comment est-ce qu'il doit marcher? Comme lui a marché, comme Jésus a marché. Voilà la mesure de notre marche. C'est pas marcher comme un tel marche. C'est marcher comme Jésus a marché. D'une manière digne du Seigneur, pour lui être à moitié agréable. C'est votre version révisée? Pour lui être entièrement agréable. C'est radical, hein? C'est absolu. Je ne veux pas de demi-mesure. Je le demande pour moi, que je puisse désormais, pour le peu de temps qui me reste à vivre, que je marche d'une manière qui lui soit entièrement agréable. Mais vous savez, marcher aujourd'hui d'une manière qui lui soit entièrement agréable, eh bien, ça sera la solitude, souvent pour vous. Parce que tout le monde fait cela, tout le monde marche comme cela. C'est devenu une habitude dans les milieux spirituels, de faire ceci, de faire cela. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas comme les autres? Alors on fait comme le monde. Et il n'y a plus cette intimité avec le Seigneur. Quel est l'homme qui a entendu la voix du Seigneur lui dire « Marche devant ma face et sois parfait » C'est Abraham. Abraham, marche devant ma face et sois parfait. Tu n'as pas à regarder les autres. Marche devant ma face. Tu es devant ma face. C'est pas ce que les autres font qui doivent t'inspirer. Que les autres fassent cela, c'est leur affaire. Mais ce n'est pas nécessaire que moi je fasse cela. je veux marcher devant ta face. Le bon berger est devant moi, je ne le précède pas. Je suis ses traces. J'écoute sa voix. Mes brebis entendent ma voix. Elles me précèdent? Non. Et me suivent. On est derrière lui. C'est lui qui marche devant nous. Et c'est quelque chose de merveilleux. Alors, fortifier à tous égards, si vous marchez devant sa face pour lui être entièrement agréable, vous porterez du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Les bonnes œuvres, c'est le Seigneur qui va les préparer pour que vous les pratiquiez. Et si vous pratiquez simplement les bonnes œuvres que lui a préparées, au lieu de vous dire qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur, c'est fini cette histoire. Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur? C'est pas quelque chose que vous avez à faire pour le Seigneur. C'est Seigneur, je vais me laisser faire par toi. C'est là la grande leçon, comme je dis souvent, de Marie, qu'elle nous a laissé. La mère bénie de notre Seigneur, elle dit qu'il me soit fait selon ta parole. Je suis la servante du Seigneur. Servir le Seigneur, ce n'est pas faire des choses pour lui, c'est se laisser faire par lui. C'est ça. C'est Dieu voudrait faire quelque chose en vous. Et il voudrait le faire d'une façon merveilleuse, magnifique, d'une façon puissante. Laissez-vous faire. C'est nous qui l'entravons. Nous sommes nous-mêmes les entraves. Alors, c'est cela, quand on s'arrête à chacune de ces paroles, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres. Alors, vous pouvez vous demander, comment est-ce qu'on peut porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres? Bien, en mettant en pratique ce qui est dit avant. Croissons par la connaissance de Dieu. Vous savez, vous pouvez fréquenter toutes les écoles bibliques possibles, c'est bien. Les plus hautes études théologiques, mais ce n'est pas cela qui vous fera nécessairement connaître Dieu. C'est votre intimité avec lui. Croissons par la connaissance de Dieu. Est-ce que c'est lui que je veux connaître? Parce que c'est ça la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas quelque chose. La vie éternelle, Jean 17, c'est le connaître. C'est connaître Dieu. C'est ici la vie éternelle, dit Jésus, qu'il te connaît. C'est le vrai Dieu. Mais d'une connaissance qui n'est pas une information sur Dieu, mais une relation, une union, une identification. C'est dans l'union avec Dieu que vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une relation avec quelqu'un. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 11, vous serez fortifiés à tous égards. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Du côté de Dieu, toutes les portes sont ouvertes. Il n'y a pas une porte fermée. Toutes les portes sont ouvertes. Il veut vous fortifier à tous égards. Mais alors, il faut aller de son côté. À tous égards. Par quelle puissance? Sa puissance. Et sa puissance, c'est une puissance glorieuse. Et qu'est-ce qu'elle a fait, cette puissance? Elle a ressuscité qui? Le Christ dans sa mort. C'est une puissance qui peut vous sortir même de la mort. Voilà la puissance dont il est question. Il peut vous fortifier à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours, c'est pas quelquefois, mais toujours, quoi? Persévérant et patient, avec une longue figure, avec foi. Vous voyez la joie. Que vous soyez toujours avec joie. On pourrait nous s'arrêter justement sur chacun de ces mots. Avec joie. Comment est-ce qu'on peut être persévérant? Qu'est-ce qui nous donne d'être persévérant? Veillez et prier. Il faut veiller pour persévérer. Il faut veiller. Être toujours sur nos gardes. Parce que nous avons un ennemi et il faut connaître cet ennemi. Et puis, patient. Patient. Patient avec joie. L'autre jour, je parlais là à Hertz dans les conférences de la patience.
je ne pensais pas que ça allait toucher une personne d'une façon très, très directe. J'ai dit, nous avons tous besoin de patience, hein, c'est vrai. Et bien souvent, vous avez prié. Seigneur, donne-moi la patience. Je suis un être impatient. Et je voudrais avoir la patience. Vous avez demandé ça. Et qu'est-ce qui vous arrive? Des épreuves, des afflictions. Je dis, mais Seigneur, mais pourquoi est-ce que tu m'envoies cette épreuve? Mais c'est pas possible. Dieu vous dit, mais je t'exauce. Je suis en train de t'exaucer. Tu m'as demandé, mais pourquoi est-ce que tu me prends? Tu me prends pour un Dieu qui ne répond pas? Tu me demandes la patience. Dans la parole, il est dit que la patience vient par la tribulation. La tribulation produit la patience. Alors, il y avait une dame qui me dit, monsieur Racine, mais c'est tellement vrai ce que vous avez dit. Moi, la semaine passée, j'ai demandé la patience, parce que vraiment, j'en avais pas. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la patience. Et puis, deux jours après, elle accroche son pied à un trottoir, et elle tombe la face contre terre, se casse quelque chose là, dans la main, et elle avait le nez tout raboté. Alors, elle me dit, mais pourquoi, Seigneur? Puis elle avouait, eh bien oui, maintenant j'ai compris, donne la patience. Et le Seigneur lui a donné cette patience. Elle était dans la joie. Mais faites attention à ce que vous demandez. Mais on demande au Seigneur des choses et on voudrait que ça nous tombe comme des petits oiseaux, là, sur, comme une colombe qui descend. Vous dites, Seigneur, je ne suis pas assez humble. Donne-moi l'humilité, l'humilité, la grâce de l'humilité. Comment est-ce que vous deviendrez humble? En étant humilié. Vous demandez l'humilité, ben vous serez humilié. Alors, si quelqu'un vous humilie, au lieu de réagir d'une façon charnelle, Seigneur, je te bénis, tu es en train de m'exaucer. Ça m'humilie, ça. Et c'est ça l'école de Dieu. À l'école de Dieu, nous y sommes. Et nous y sommes toute notre vie, jusqu'au bout. Personne n'est arrivé. On est toujours à l'école. On n'est pas sorti de l'école biblique. On est toujours à l'école. Croyez-le. C'est, alors ça nous encourage les uns les autres. Et le Seigneur ne va pas nous lâcher. Alors nous connaîtrons la patience avec joie. Verset 12. Maintenant, lui, il a rendu grâce hein, avec Timothée. Mais maintenant, il demande aux Colossiens de rendre grâce eux-mêmes. Rendez grâce au Père. Vous dites, il y a une relation constante avec ce Père. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Père? Il nous a rendu capables. C'est fantastique. C'est pas nous qui avons cette capacité. Ailleurs, l'apôtre Paul le dit d'une façon très claire. Nous ne sommes pas capables. Chapitre 3 de la deuxième épître aux Corinthiens. Nous ne sommes pas capables. Mais notre capacité vient de Dieu. Notre capacité vient de Dieu. Ce n'est pas que nous soyons capables par nous-mêmes. Mais il y en a qui se croient capables. Et dès que vous vous croyez capable, le Seigneur vous met de côté. Mais le jour où vous êtes un gros zéro, est-ce que vous êtes d'accord d'être un gros zéro? Ben non, alors, je perds la face. Mais mon Seigneur, il a perdu la face sur la croix. Et mon Seigneur, c'est quand il était sans forme qu'il a sauvé le monde. Nous, on nous demande toujours, est-ce que vous êtes en forme? Si je suis en forme, le Seigneur ne fera rien de moi. Mais si je suis réellement conscient d'être sans forme, alors il agira. Parce que toute gloire viendra de lui. Si vous êtes un zéro, comme on le dit quelquefois, quand l'unité viendra devant vous, ça fera 10. C'est lui l'unité. Si vous êtes 2-0, quand l'unité viendra devant vous, ça fera 100. Et si vous êtes 6-0, ça fera 1 million. Sa puissance s'accomplit dans notre faiblesse. Alors, même si vous vous dites, mais moi je suis 0 sur toute la ligne, louez le Seigneur. Parce qu'il pourra agir avec vous. Toute gloire reviendra au Seigneur. Ma capacité vient de... Et c'est lui qui nous rend capables. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables. tout est fait par le Père. C'est le Saint-Esprit qui met l'amour dans nos cœurs. Maintenant, c'est le Père qui nous rend capables d'avoir part à quoi ? À cet héritage. À cet héritage des saints. Où ? Dans la lumière. Ah, c'est pas sur la terre. Cette terre est un monde de ténèbres. Notre héritage à nous, il est dans la lumière. Dans la lumière. Et il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Elle nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Quelle expression merveilleuse. Est-ce que c'est nous qui nous transportons? Est-ce que c'est nous qui nous efforçons d'y arriver? C'est de nouveau, laisse-toi transporter. Oh non, moi je peux marcher tout seul. Non, tu ne peux pas. Laisse-toi porter, laisse-toi transporter. Nous parlons toujours d'efforts, de prix à payer, et que sais-je encore, alors qu'il est question d'un abandon. Cessez vos luttes vaines, jetez-vous dans ses bras, mais définitivement, vous dites, mais non, mais je ne peux pas. Mais oui, il est là pour ça, il est venu pour cela, pour que tu tombes dans ses bras. Mais vous dites, mais c'est un saut dans le vide. Oui, mais au-dessous de toi sont les bras éternels. J'aime beaucoup cette image d'un enfant qu'on a mis sur le mur, un petit enfant, je suis grand-père 15 fois, alors je sais ça. Puis on lui dit de sauter, en lui tendant les bras. Est-ce que l'enfant va se dire, il va se mettre de côté, puis je m'en vais m'écraser? Non, il saute, et il est sur mon cœur. Hein? Mais c'est ça, c'est pas efforce-toi de grimper cette cime. Tu t'essouffles, c'est cardiaque, ça ne va plus. Tu glisses, tu retombes. C'est pas efforce-toi d'aller là-haut. Le Seigneur lui dit, je suis descendu plus bas que toi, c'est toi qui es trop haut. C'est toujours nous qui sommes trop haut. Quand nous ne sentons plus la présence du Seigneur, c'est pas que le Seigneur s'est éloigné, c'est que nous nous sommes élevés. Et pour le retrouver, descendons. Jetez-vous dans ses bras. Au-dessous de toi sont les bras éternels. Et alors tu auras du repos, vous aurez du repos, le repos de vos âmes. Vous voyez que tout est centré sur lui. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ailleurs, il est parlé du royaume du Père. Ailleurs, il est parlé du royaume du Christ. C'est toujours le même royaume. Et il est parlé du royaume de leur Père, dans le chapitre 13 de Matthieu. Ce Père de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est aussi notre Père. C'est le royaume de leur Père. Si nous avons marché avec le Seigneur, nous brillerons un jour dans le royaume de notre Père. Nous serons avec le Fils de son amour, des enfants d'adoption, qu'il aime comme quoi ? Comme qui ? J'osais le dire ? Comme son Fils. Si vous voulez savoir de quel amour le Père vous aime, Jésus l'a dit, tu les as aimés comme tu m'as aimé. Vous ne trouvez pas que ça nous pousse à l'adoration ? On devrait se prosterner, on devrait adorer. C'est pas possible. On n'est pas conscient de l'amour dont on est aimé. C'est pourquoi ce matin, je me suis senti poussé à vous dire, comme première parole, vous êtes ceux que Dieu a tant aimés. Vous êtes tant aimés. Prenez conscience de ça. Il n'y a que ça qui est vrai. Vous me direz, mais moi je ne le sens pas. C'est une affaire de sentir. C'est une affaire de le croire. Et si vous le croyez, vous éprouverez, quelles que soient vos difficultés et vos épreuves, que vous êtes bien aimé du Père. Il vous aime, ce Père, comme Jésus a été aimé de lui. Il vous a délivré de la puissance des ténèbres, il vous a transporté dans le royaume du Fils de son amour. Et en ce Fils, qu'est-ce que vous avez ? La rédemption, c'est-à-dire le salut. Vous avez en lui, en Jésus seul, la rédemption, c'est-à-dire tout le salut. Mais ce salut, qu'est-ce qu'il nous apporte d'abord ? La rémission de nos péchés. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez la rémission de vos péchés ? Ça veut dire que Dieu vous les a remis. Est-ce qu'il va vous les représenter ? Alors, soyez déculpabilisés. On dit que la maladie du Québec, c'est d'être culpabilisé.
soyez déculpabilisé. Mais comment est-ce que je peux être déculpabilisé? En croyant qu'en Jésus, vraiment, j'ai la rémission de mes péchés. Et c'est vrai, la rémission des péchés en Jésus, ce n'est pas un coup d'éponge de Dieu, du bon Dieu, qui passe par-dessus nos iniquités. La rémission de nos péchés est basée sur un sacrifice qui a été accompli. Justice est faite. Le salaire du péché, c'était la mort. Quelqu'un est mort. Le Christ est mort. De sorte que Dieu serait injuste s'il vous accusait. C'est quand même fantastique. Vous êtes tenu pour juste parce que la vie qui vous a racheté avait une telle valeur pour le cœur du Père que toutes vos fautes, il ne s'en souvient plus. Et non seulement lui ne s'en souvient plus, mais il ne veut plus que vous viviez dans le souvenir de vos fautes, ce qui vous paralyse dans le témoignage. Pierre n'a pas été paralysé par son reniement. Quand il a eu la restauration du Seigneur, il a pu dire aux autres, vous avez renié le Saint et le Juste. S'il avait vécu dans le souvenir de sa faute, il n'aurait jamais osé dire cela. Parce que lui avait renié. Mais il était libéré même du souvenir de sa faute. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas resté humble et petit à ses propres yeux, sachant bien ce dont sa chair était capable. Et nous devons aussi l'apprendre. Alors nous avons la rémission des péchés. Vous pouvez être heureux aujourd'hui. Vos péchés vous sont remis. Et c'est ce qu'il est, ce Seigneur. Ou alors, là j'avais un vieil ami, celui qui a commencé les camps Mahanaïm avec moi. Il s'appelait le pasteur Champandal. Il est auprès du Seigneur maintenant. Il aimait ce passage. Alors il rayonnait. Il est mort à 77 ans. Mais quand il parlait de ça, il est. Qu'est-ce qu'il est, le Seigneur? Il est. Alors maintenant, voyez tout ce qu'il est. Il est l'image du Dieu invisible. C'est quand même fantastique. Vous pouvez voir en lui le Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Quand vous regardez Jésus, quand vous lisez la vie de Jésus dans l'Évangile, vous voyez le Dieu invisible qui se montre. Alors, soyez des contemplatifs, mais des contemplatifs actifs. Hein. On le contemple pour vivre. On le contemple pour vivre. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Ça ne veut pas dire que Jésus a été créé. Hein. Il est venu en chair. Il était de toute éternité. Mais il est le premier-né de toute la création, de cette nouvelle création. C'est un titre d'honneur, comme il l'est dit du reste dans le psaume 89 au sujet de Salomon. Salomon qui était le premier-né de David, mais ce n'était pas son premier-né, hein. Mais c'est un titre d'honneur. Jésus n'a pas été créé, il est le créateur. Alors c'est pour cela que vous ne devez pas isoler ce verset, parce que vous ne le comprendriez plus, ce serait une contradiction. Mais il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Si vous voulez voir ce qu'était la volonté de Dieu, contemplez le Seigneur. Parce que nous avons été créés à son image. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et les invisibles. Vous voyez comme on est ignorant au sujet de ces choses invisibles. Il y a des trônes, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc, qui est-il, ce fils? Il est le créateur. Hein? Vous avez bien compris ça. Il est le créateur. Il est l'image du Dieu invisible, mais il est aussi le créateur. Et puis, verset 17, il est avant toute chose. Donc, c'est sa préexistence. Il est avant le commencement. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez comme tout se lit. Hein? C'est quelque chose de merveilleux. Tout a été créé par lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. C'est lui qui fait subsister toute chose. il les conserve, il les fait vivre. Et puis, non seulement cela, mais il est encore la tête du corps de l'Église. Qui est la tête de l'Église? Le Christ. Donc, vous le voyez toujours à la première place. Et non seulement ça, il est le commencement. Quand vous lisez « au commencement », qui c'est le commencement? C'est lui. C'est lui. Il est le commencement. Il est le commencement. Et non seulement cela, mais il est le premier-né d'entre les morts. C'est lui le premier en tant qu'homme qui est sorti de la mort. Alors, vous voyez comme le Seigneur devrait occuper nos pensées. Il est le premier-né d'entre les morts. Nous, qu'est-ce qui va nous arriver si le Seigneur ne revient pas tout de suite? Nous allons mourir. Puis où allez-vous aller? Quand vous vous préparez pour un voyage, vous vous documentez sur la patrie où vous allez aller. Hein? On se documente. Alors, est-ce que vous vous documentez sur votre patrie céleste? Est-ce que vous devenez familier avec ce qui est devant vous? Parce que tout vient... Non, moi, je me préoccupe. Hein. J'ai acheté un terrain, là derrière, sur le Mont-Royal, au cimetière. C'est ça ma préoccupation? C'est là que j'irai? Non, c'est ma dépouille qui ira là, si elle va là. Parce qu'on peut partir ailleurs. Mais là où je tomberai, je serai enterré. On ne va pas faire le transport d'un corps. Pourquoi? Toute la terre est à l'éternel. Nous sommes chez nous partout. C'est la terre de notre Père. C'est la terre de... Alors ça simplifie bien les affaires. Mais ce qui compte, c'est connaître notre patrie. C'est de savoir ce qui se trouve dans cette patrie céleste. Le Seigneur veut être en tout le premier. Il veut occuper la première place. Alors je vous pose affectueusement cette question et je demande au Seigneur par son esprit de la poser encore à moi. Est-ce que le Seigneur occupe la première place dans mon cœur? Est-ce qu'il est en tout le premier? Bien, est-ce qu'il y a des choses qui comptent encore tellement? C'est pas le Seigneur qui est le premier. Seigneur, je te demande que tu sois le premier. Seigneur, je te demande vraiment que tu occupes la première place et que ce soit là un fruit de cet retrait. Que le Seigneur occupe dans vos vies la première place. Parce que vous savez, si vous recherchez le royaume de Dieu et sa justice, qu'est-ce qui vous arrivera? Toutes les autres choses. Et vous le croyez, ça? Mais les gens recherchent d'abord toutes les autres choses. Puis après, c'est le Seigneur. Et c'est pourquoi on est épuisé. Toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Croyez-le, revenez à l'Évangile. Car en lui, il faut qu'il ait la première place, parce que en lui, Dieu a voulu que toute plénitude habite. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Alors, la plénitude de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, se trouve en son Fils. Alors, si vous avez le Fils est en vous avec quoi? Toute la plénitude est en lui. Si vous avez le Fils, où est la plénitude? En lui et en vous. C'est parce que vous avez Jésus que la plénitude est en vous. Alors, laissez cette plénitude éclater en vous. C'est pas donne-moi davantage de plénitude. La plénitude, c'est plus à habiter en qui? En Christ. Dieu a voulu qu'en lui habite toute la plénitude. Alors vous savez, ça redresse toutes sortes de doctrines. C'est en Jésus qu'habite toute la plénitude. De sorte que si vous avez reçu Jésus, qu'est-ce que vous avez en vous? La plénitude. Prenez conscience de ça et mettez-vous à louer le Seigneur de ce que vous avez reçu. Vous avez la plénitude. Mais, alors évidemment, il y a peut-être bien des choses qui empêchent la plénitude de se manifester. Demandez la déménageuse pour que toute cette vieillerie qui occupe encore tant de place dans vos vies, soit débarrassé pour que le Seigneur puisse vraiment s'installer avec son mobilier du ciel dans vos vies, qu'il fasse vraiment ses demeures en vous, qu'il s'installe dans tous vos appartements, en vos vies. Il a voulu donc, ce Dieu, par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre,
et tout ce qui est dans les cieux en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Oh mes amis, quel salut, le sang de sa croix, la mort de Jésus sur la croix. C'est là le prix qu'il a payé pour qu'on soit réconciliés, pour que toutes choses soient réconciliées, parce que notre péché avait créé toutes sortes de troubles dans les choses visibles et dans le monde invisible. Mais il a fallu qu'on soit réconcilié aussi avec les anges. Mais on connaît si peu cette vie des anges, qu'on n'est pas préoccupé des choses du ciel, et pourtant c'est notre patrie. C'est par Jésus que tout est réconcilié. Les choses qui sont dans les cieux, alors occupons-nous des choses qui sont dans les cieux, et des choses qui sont sur la terre. Et verset 21, « Et vous qui étiez autrefois, qu'est-ce qu'on était autrefois ?» Étranger, qu'est-ce que c'est qu'un étranger ? C'est un homme qui n'est pas de la nation. C'est un étranger, il n'est pas de la famille. Bien, nous n'étions pas de la famille de Dieu avant. Mais maintenant, nous le sommes. Nous étions ennemis. On était ennemis par quoi ? Par nos pensées. Vous voyez que tout est là dans la pensée. Nous étions ennemis dans nos pensées et par nos mauvaises œuvres. Parce que quand on a des mauvaises pensées, nos œuvres sont aussi mauvaises. Nos actions sont le prolongement visible de nos pensées. Nos paroles sont le prolongement audible de nos pensées. Donc tout est là dans la pensée. Et voyez-vous, veillons sur nos pensées. Demandons au Seigneur d'amener vraiment toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Alors vous prierez sans cesse. Alors vous serez en communication avec le Seigneur. Mais si vous vous laissez aller aux pensées de votre propre cœur, ben ce seront les pensées de quoi ? De la chair. Et qui est-ce qui inspire les pensées de la chair ? Même, on les croit très bonnes, ces pensées. Regardez l'apôtre Pierre. Il vient de dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur lui dit, Pierre, c'est pas la chair et le sang qui t'a révélé ça.